les mémoires, que je te demanderai maintenant de lire et de commenter. Je vais simplement amorcer les citations, puis je vais te demander de les lire toi-même. Alors, c'est page 19. Mais revenons à la naissance biographique. Elle ne s'est pas faite sans mal, paraît-il. Alors, je lis le paragraphe.
Ce n'est pas une naissance biographique, c'est une naissance biologique.
C'est ce qui est écrit.
Oui, mais j'ai la page sous les yeux. Donc, tu as transformé biologique en biographie. C'est assez important parce que je prétends qu'il y a plusieurs naissances. Il y a une naissance biologique, dont je vais parler là à l'instant, et puis il y a la naissance ensuite plus symbolique qui peut porter sur des rituels divers. Ma naissance symbolique ayant été le fait de me donner à un moment donné un nom. Donc, c'est une autre naissance. Alors, donc, voilà ce qui m'est arrivé dans un faubourg de Bordeaux, le 28 novembre 1936, c'est-à-dire ma naissance biologique. Elle ne s'est pas faite sans mal, paraît-il. Forceps. On endosse un corps. Il faudra le vivre avec ses particularités cellulaires et son imposition d'identité symbolique. Très vite, rien ne me paraît normal dans cette histoire. Aujourd'hui encore, j'ai le plus grand mal à y comprendre quoi que ce soit. Le refuge immédiat, c'est la maladie. Otite à répétition, puis mastoïdite, puis asthme sévère. Le cœur bat dans les tympans qu'il faut exciser, le souffle ne va pas de soi, il y a quelque chose de plus à écouter ou entendre, la respiration est une sorte de miracle dont on ferait bien de tenir compte très tôt avant d'expirer pour de bon et de rendre son dernier soupir. Le nouveau-né sait d'emblée qu'il est là pour mourir, et il voudrait bien savoir pourquoi on l'a jeté dans cette aventure. Tout cela donc, surmonté assez tard avec l'appui de larmes sexuelles pensées. Mais, enfin, l'enfance est pour moi un continent de lits et de draps froissés, de fièvre et de délire, mêlé d'éblouissements continus au jardin. La maladie récurrente affine les perceptions, les angles d'espace, le grain invisible du temps. Les hallucinations vous préparent à la vie intérieure des fleurs et des arbres. On apprend à trouver son chemin tout seul à l'écart des sentiers battus, des clichés rebattus, des pseudo-devoirs. J'ai fait beaucoup de figurations, d'ailleurs souvent brillantes, à l'école. Bon en latin, en français, en récitation, pointu en algèbre, évasif en géométrie, désinvolte en physique et chimie, endormi en géographie, mais très réveillé en histoire. Autre chose?
On aimerait que tu enchaînes un peu, que tu nous parles de...
Mais ça, c'est donc le... Bon, c'est être jeté, bon, ça c'est... On est jeté. Donc, le roman familial, à partir de là, n'est pas quelque chose qui plombe l'aventure. Le sentiment d'être le là, si tu veux, m'a habité dès le début. J'ai eu l'impression d'être jeté là, dans le là. Après ça, il y a les adultes autour qui s'agitent, il y a l'histoire dont on va parler, qui n'est pas n'importe quand, ni n'importe où.
Est-ce que tu as insisté sur la biologie? Je ne sais pas si tu as envie de parler des draps, des maladies, du souffle, et puis de l'école aussi, où on passe plus loin.
On va y arriver, on va y arriver. Donc, enfin, ça se passe où et quand? Donc, je m'appelle Joyot, et mon nom d'écrivain va être choisi par moi dans le dictionnaire latin, donc Polytropos Solers. Voilà, j'invente un personnage imaginaire à partir de 14-15 ans qui s'appelle Solers. Alors, nous sommes donc fin 1936. Voilà, on passe par l'histoire. Front populaire en France et guerre d'Espagne, c'est-à-dire pour moi, à travers les volets mi-clos, les hurlements des grévistes. Mes parents étaient du signe, voilà, il y a des grèves. Alors, j'entends les hurlements des grévistes, donc, assez vite. Joyaux au poteau. Ce slogan martelé, je l'entends encore, et je dois avouer que je l'ai trouvé par la suite plutôt naturel. Il y a les riches et les pauvres. Les pauvres n'aiment pas les riches. Les riches ne voient pas les pauvres. Tout cela est normal. Nous sommes quand même des bourgeois spéciaux, exceptionnels même dans cette région de France. Usines, banques, camions, livraisons, ce n'est pas reluisant ni correct. Le prolétariat voué, c'est bien le moins. La petite bourgeoisie vous jalouse à mort. La bourgeoisie traditionnelle feint de vous mépriser, mais envie votre réussite. Vous avez donc contre vous les staliniens, les fascistes, les conservateurs, ça fait beaucoup de monde, et ça explique pourquoi votre famille, deux frères ayant épousé deux sœurs et vivant dans deux maisons symétriques avec un grand jardin, la particularité est encore très 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 présente, ça explique pourquoi votre famille semble ne pas avoir d'amis. Vous avez spontanément un peu de morale et même une sorte de sympathie pour les communistes. Vous essaierez plus tard de les amadouer. Erreur. Sous toutes les dénégations égalitaires, fraternelles et républicaines, la France est et reste le pays de la lutte des classes et de l'obsession sociale. Même dans l'uniformisation en classe moyenne, l'empreinte demeure avec culpabilité profonde par rapport à l'ancienne aristocratie raccourcie, tombée depuis dans le cirque people.
Alors, tu as voulu qu'on reprenne aussi le roman familial que tu évoquais rapidement, c'est la page 14, roman familial plus qu'étrange.
Roman familial plus qu'étrange. Deux frères ayant épousé deux sœurs. J'ai cherché beaucoup s'il y avait des équivalents au point de Rousseau, mais c'est pas ça. Deux frères ayant épousé deux sœurs vivent dans deux maisons jointes et symétriques, chaque pièce de l'une étant l'exacte réplique de celle de l'autre. D'un côté, alors il y a un homme, une femme, Laure, et un parrain qui est plus que mon cousin, qui s'appelle Pierre Joyot, moi je m'appelle Philippe Joyot, et il y a Pierre Joyot et un Philippe Joyot. Donc. Alors cela fait deux PJ. Et je mettrai longtemps à imposer le H. Pour écrire l'abréviation de mon prénom. PH.Joyau et pas P.Joyau. Je réussirai même à obtenir un tampon rouge pour bien souligner la séparation. Aujourd'hui encore, où je m'appelle le plus souvent Solers, l'inscription P.S.PS dans les signatures ou les interviews me dérange. D'autant plus que cela fait post-scriptum du Parti Socialiste. PH, vous dis-je, comme le phi grec, c'est-à-dire bien entendu phallus. PJ n'était pas non plus possible, puisque cela donne police judiciaire. J'insiste, PHJ ou PHS. Et je rappelle, tout ça me rappelle la lettre que m'envoie un jour Lacan. C'est un passage du livre. Le charmant Lacan, puisqu'on parle de psychanalyse, m'envoie un mot à l'adresse de Julia Solers. Alors je lui téléphone et je lui dis sœur, mais il n'y a pas de Julien Severs. Il y a Julien Joyot, Julien Kristeva, il y a Philippe Joyot et Philippe Severs. Il n'y a pas de Julien Severs, nous sommes d'accord. Plus que je ne m'appelle Philippe Kristeva, sauf pour certaines étudiantes américaines qui débarquant dans mon studio de temps en temps me demandent si je m'appelle Philippe, si je suis bien Philippe Kristeva. Et je réponds, of course. Pour vous dire simplement l'importance du nom dans toutes ces affaires. Je me rappelle très bien que Lacan n'a pas été content de mon intervention analytique, qui était pourtant tout à fait raisonnable. Après quoi, il se met à parler de Joyce. Alors, un jour, je lui fais remarquer que son prénom, à lui, Lacan, Jacques, est exactement celui de Joyce en anglais, James. La King James, la Bible. Ah oui, ça ne lui a pas plu. Mais un peu plus tard, alors je lui ai montré simplement pour lui dire d'où je lui parlais les trois premières lettres de mon nom d'état civil, qui sont indubitablement J-O-Y. Joy, hein, ok. Ça l'a interloqué un peu. Enfin, quelques temps après, il voulait qu'on parte ensemble à Venise, ce qui ne s'est pas fait, bien entendu. C'était une parenthèse. Ce nom. Ne vous avisez pas, les adultes, de traiter familièrement cet enfant de fifi, pas Il vous en coûtera chaque fois une amende. Un franc de ces temps anciens, deux pour les récidivistes. Tire-lire, banco. Déjà analyste. Ce nom de joyau, avec un X, a d'ailleurs été à la fois une merveille personnelle et une plaie sociale. Dans la mesure où il m'a attiré, surtout à l'époque, une agressivité et des colibés en tout genre. Jean Poulain, qui a lu mes premiers essais, transmis par Francis Ponge, trouvait que c'était un nom de grand écrivain. Ironie, sans doute, de Malraux à Joyot. J'ai donc passé mon enfance à l'école à entendre déformer ce joyau en noyau ou noyau, sans parler des apostrophes lassantes des professeurs petits bourgeois. Ce joyau n'est pas une perle. Ou bien, dites-moi, joyau, vous ne brillez pas de tous vos feux aujourd'hui. J'ai remarqué, autre trait d'époque, que les noms systématiquement moqués étaient en général aristocratiques ou juifs. J'étais suspect comme eux, je le reste.
Alors, page 15, nom d'autant plus difficile à porter.
Oui, ça on peut passer.
Tu peux parler peut-être ensuite.
On peut passer parce que j'ai autre chose.
L'histoire du père et des deux frères.
Ah, oui, ben.
Il a un part, tu décris cette usine.
Le jardin.
Voilà, ouais. Fils d'un industriel oui, et d'un monde ouvrier. Un part, justement, une usine à grande
cheminée. Un part, à savoir, jouxtant une usine à grande cheminée de briques. Tout ça a été donc rasé, détruit. Quelque chose d'assez particulier dans mon existence, c'est que toutes ces maisons, ces jardins ont été rasés, mes parents ayant fait faillite, et que d'autre part, l'Illeray, comme tu sais, la maison qui est restée, qu'il a fallu reconstruire, a été rasée par l'armée allemande, les nazis, parce que cette maison était dans leur ligne de tir par rapport au mur de l'Atlantique. Ces crétins croyaient pouvoir murer l'Atlantique. Donc, quand même, c'est, je le précise, le fait d'avoir eu deux habitats rasés, il n'y a plus rien, je raconte ça dans le portrait du joueur, j'essaie de le retrouver, parce que c'est un grand supermarché maintenant, et le narrateur va là, et il essaye, dans ce supermarché, il monte, il essaye de retrouver où étaient à peu près les lieux, enfin, où était sa chambre, par exemple, pas, c'était là. Parce que c'est là où il allait jouer, où le rayon récupérait, où était la bibliothèque. C'est important. Alors, un parc, jouxtant une usine à grande cheminée de briques, un dispositif adulte endogamique, donc de frères à fort parfum incestueux, une ouverture, une contradiction, une clôture. Deux hommes sombre, se lève très tôt, disparaissent par une petite porte en bois dans un monde mécanique et dur. On entend de loin les presses, les fraiseuses. L'embauche et la débauche des ouvriers et des ouvrières, la répétition d'usure plombée du travail. Oui, des hommes sombres, ces patrons mythiques. Ils ont fait la Première Guerre mondiale très jeunes, 18 à 20 ans. Ils ont été à Verdun, non maudits. Comme tout ce qui se passe là-bas vers l'Est, je ne peux pas supporter le 19e arrondissement de Paris, la gare de l'Est, et le fait que j'ai été embarqué là pour des camps d'observation du côté de Belfort. Enfin, tout ce qui se passe à l'Est de la France, pour moi, est absolument maudit. C'est une pure interprétation. Alors, comme tout ce qui se passe là-bas vers l'Est, j'ai vu mon oncle, un dur à cuire pourtant, pleurait comme un loup. J'étais très jeune, en me montrant des photos de la tranchée des baïonnettes. Les types enterrés vivants par des tirs d'artillerie, les aciers dépassant du sol, comme des fleurs. Mon père, lui, artilleur et gazé, était volontaire dans les retraites pour rester en arrière et faire sauter les batteries au milieu des cris des agonisants. Normal, il était le plus jeune, donc célibataire. Le voilà en train de courir en zigzag pour échapper à la mitrailleuse d'un avion allemand. Il refuse tout avancement, toute décoration, reste fondamentalement anarchiste, mais est contraint de jouer le jeu du travail. Quel ennui. Son avis sur tout ça. Dans une des vérandas,